Tu m'avais dit Imo Carpe. Je t'avais répondu Brèche à lune. On pouvait se dire.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Une émission spéciale JL Bourque, le club professionnel de basket. Dans quelques minutes, son président sera en direct avec nous.
Mais aussi reportage pendant le match à huis clos contre Bologne et pendant un entraînement avec l'interview de joueurs et du staff.
Radio B. Radio B.
Pour la première fois de son histoire, la JL Bourque est en Eurocup, la compétition européenne de basketball juste avant l'Euroleague.
Une saison intense pour l'équipe qui doit alterner les matchs entre la JP Elite, le championnat français et la Coupe européenne, et tout ça sans son public.
Nos stagiaires
de 3e, Hugo et Clément, nous présentent le club de la JL Bourque et son historique. On les écoute.
Eh bien bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clément.
Bonjour Hugo, bonjour à vous qui nous écoutez.
Tout d'abord, commençons par nous intéresser aux compétitions auxquelles la JL Bourque participe.
Cette année, les Bressans étaient qualifiés en 8e de finale pour la Coupe de France. Ils ont malheureusement été éliminés par l'ASVEL, le club de Lyon-Villeurbanne. Ils ont perdu 86 à 77.
La JL participe à l'Eurocup. Celle-ci regroupe les meilleures équipes d'Europe. Cette coupe rassemble 4 groupes, chacun composé de 6 équipes.
La JL Bourque participe également à la JP Elite. La JP Elite, anciennement appelée ProA, est un championnat qui regroupe les meilleures équipes de France. Les Burgiens sont situés à la 5e place sur 18 équipes. Hugo, tu nous parles maintenant de l'actualité du club ?
Très bien, la JL Bourque annonce le recrutement du pivot international croate Ivan Bouva. Tandis que Ivan Bouva arrive, c'est Théo Rey qui s'apprête à partir du club récent. Il se plaint de ne pas avoir assez de temps de jeu. La JL a prêté ce joueur à un club alsacien de Pro B pour le reste de cette saison. Théo devrait revenir au sein de la JL Bourque à la saison prochaine.
Intéressons-nous à son histoire à présent. De match en match, la JL Bourque a su conquérir les supporters d'une ville et aujourd'hui, c'est même tout un département qui la soutient. De défaite en victoire et d'échec en succès, ce club a su conquérir toujours plus de supporters.
La section de la JL Bourque a été créée en 1947, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est seulement une dizaine d'années après que la JL remportera son premier titre de champion de l'Ain.
Le premier titre national arrive quant à lui en 1961. La JL devient alors championne de France face à Nantes.
Suite à ce titre, la JL poursuit 2 saisons convaincantes, ce qui permet au club d'évoluer dans les différents championnats. Elle finit par monter en championnat fédéral en 1963, la Fédérale 2. Ce succès amène plus de public au club. De plus en plus de jeunes basketteurs se présentent au fil des années pour tenter de devenir licenciés. L'année 1965 est marquée par le déménagement du club dans sa nouvelle salle, Charles Robin. La JL poursuit son élan en Fédéral 2, qui change de nom pour devenir la Nationale 3.
La JL Bourque joue, depuis 2015, ses matchs dans la salle Equinox. Pour le moment, il se joue à huis clos à cause de la pandémie. Les supporters doivent donc prendre leur mal en patience. On écoute l'interview de l'un d'entre eux.
Eh bien bonjour monsieur Jean-Michel Voiteau, vous êtes le président des Diablotins, le club des supporters de la JL Bourque.
Depuis quand existe le club des supporters ?
Donc moi je suis président depuis 3 ans et le club existe depuis, je pense, une dizaine d'années.
Et combien il y a de membres dans votre club des supporters ?
Donc actuellement nous sommes une centaine, mais avec la Covid-19 donc on a eu un arrêt net d'adhérents, mais l'année dernière, on était 140 adhérents.
Et en temps normal, quel est votre rôle pendant un match, donc sans la crise sanitaire ?
Donc sans la crise sanitaire, mon rôle, c'est de préparer la tribune. Donc après, je suis président, mais bon, j'ai des personnes qui m'aident aussi. Donc on prépare les drapeaux qu'on met dans la tribune des supporters. Donc quand les joueurs ils rentrent sous le terrain, donc on a 2-3 personnes qui sont sur le parquet avec des drapeaux. Et puis sinon, moi, personnellement, j'ai un klaxon en ma possession pour mettre un peu d'ambiance. Et puis sinon, c'est moi qui lance les chansons pendant le match.
Et Equinox, la salle où joue la JL est fermée. Les matchs se jouent à huis clos. Et du coup, comment faites-vous pour les encourager?
Donc, c'est difficile. C'est vrai que c'est frustrant quand on est supporter d'une équipe. Mais bon, on n'a pas le choix. On est à la maison. Moi, j'ai la chance d'avoir une chaîne pour pouvoir voir les matchs de basket, que ce soit en JP Elite ou en Eurocup. Donc, moi, je suis déjà privilégié. Et puis sinon, c'est pas évident. On essaye de les encourager comme on peut, mais bon, voilà, c'est frustrant, c'est tout, on n'a que ça à dire. Hein.
Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en tant que président des Diablotins pour 2021?
Qu'on retrouve très très vite Equinox, et comme disait notre président Julien Desbottes, on espère faire un quart de finale de l'Eurocup à fin mars, pour que tous les supporters, que ce soit les abonnés, les adhérents, supporters diablotins viennent dans cette salle et vraiment qu'on mette une super ambiance pour la belle performance de notre équipe depuis le début de saison, en JP Elite comme en Eurocup, parce que c'est vrai qu'on est quand même qualifié dans le top 16 de la petite Coupe d'Europe.
Oui, on l'espère et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à Clément et Hugo, nos stagiaires de 3e.
Mercredi 20 janvier, nous étions à Equinox, la salle de la JL Bourque, pour assister à un match à huis clos en Eurocup.
Plus de public pour les matchs de basket, mais en tant que journaliste, on peut quand même y assister. À l'entrée, prise de température, on remplit aussi un document pour certifier qu'on n'a pas eu de symptômes particuliers ces 15 derniers jours. Masque obligatoire à l'intérieur et un siège sur deux est occupé. On s'installe à notre emplacement. Ce match d'Eurocup oppose la JL Bourque à Bologne. L'équipe italienne est invaincue de la compétition et les rouges et blancs doivent se surpasser sans leur public. D'habitude, ils sont plus de 3000 dans cette salle. Aujourd'hui, au total, on doit être moins d'une centaine. Et la plupart sont là pour leur travail et non pas pour le loisir. À notre droite, une dizaine de journalistes sportifs suivent assidûment le match. Et à notre gauche, le staff de la JL encourage leur équipe. En face, une trentaine de proches des joueurs regardent ce match, loin du terrain, pour respecter les mesures sanitaires. Autour du parquet, à gauche, les joueurs de la JL et leur coach Savo Vuzevic. Et à droite, l'équipe de la Virtus Bologne. Au centre, la table des arbitres et Arafat Gorab qui anime le match avec de la musique et ses commentaires. Et en face de nous, on voit trois caméramans retransmettre la compétition européenne sur RMC Sport notamment.
Bon alors, entre un match normal et un match à huis clos, qu'est-ce qui change ?
L'ambiance, c'est vrai qu'on entend beaucoup plus ce qui se passe sur le terrain, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant. C'est plus animé en fait par les bancs des différentes équipes. Là, on va entendre par exemple l'entraîneur italien, les joueurs italiens qui s'exclament dès que leur équipe marque, et puis la même chose du côté de l'équipe burgienne. Donc c'est vrai que c'est des choses dont on n'aurait pas conscience quand il y a le public. Là, normalement, il y a les diablotins qui sont en tribune et qui font du bruit. Là, c'est très, très calme. Heureusement qu'il y a encore l'ambiance mise par Arafat qui s'occupe de l'animation. Donc, au moins, on garde ça.
Alors là, c'est la mi-temps, 44 pour Bourque, 47 pour Bologne. Donc là, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans un match normal, pas à huis clos?
Normalement, il y a des animations qui se passent sur le terrain. On va souvent donner la place aux jeunes. Je me souviens d'une fois où j'étais venue voir le match où il y avait un club de danse de Bourque qui était venu faire une représentation de rock acrobatique. Ils sélectionnent des gens du public pour qu'ils puissent tirer au panier. Enfin, la mi-temps est vraiment vivante, alors que là, bon, ça fait vraiment vite, quoi.
Ouais.
temps mort demandé par la JL Bourg.
Et les Burgiens se sont accrochés jusqu'au bout pour ce match, mais ça n'a pas suffi pour battre Bologne. Le score final, 87 à 99. Et on retrouve maintenant Arafat Gorab, le speaker du match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle à la JL ?
Je suis responsable logistique de la JL Bourg depuis 2006 et je suis speaker de la JL depuis 1999. Donc en premier, je suis arrivé en tant que speaker puisque mon premier métier dans la vie, c'était DJ. Je suis toujours un peu DJ à côté et donc j'en suis venu à mettre des musiques, etc. Et après, en 2006, on m'a embauché pour gérer toute la logistique du club, c'est-à-dire tout ce qui concerne les joueurs, appartements, voitures, les déplacements, la logistique autour de la mise en place d'Equinox, les LED, etc.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites pendant le match ?
Alors pendant le match, moi, mon job, c'est d'animer et de faire en sorte que le public y pousse. Donc là, malencontreusement, je m'ennuie un peu parce que je suis tout seul et je trépigne même parce que j'ai hâte que le public revienne, que les bénévoles reviennent, les partenaires. Et là, mon job, en fait, c'est de faire en sorte que le résultat tourne en notre faveur. Je pense qu'aujourd'hui, 87-99, avec un peu de public sur les moments clés, on aurait peut-être gagné ce soir. Sachant qu'en plus, on jouait diminué, donc on a fait un bon match, hein, ils étaient plus forts.
Et donc là, justement, on a vécu un match à huis clos avec vous, on vous a vu animer. Qu'est-ce que ça change pour vous, en fait ?
Beaucoup de frustration parce que on peut pas faire les choses qu'on fait d'habitude. Il y a pas de public, donc c'est vrai qu'on se retient, on travaille au frein à main en fait, hein, au frein à main, et ça manque le public, ça manque énormément. Et je vous avouerai que on est au bord de la déprime là parce que ça commence à faire long, ça commence à faire très très long.
Et comment vous arrivez à animer un minimum même si on était une petite trentaine de personnes là ?
Bah, on essaye en fait de faire comme si de rien n'était pour que les joueurs se sentent comme dans un match normal et pour pas casser l'ambiance, pour qu'ils se disent allez on peut y aller, même ce soir on essaie de dire allez, les encourager un peu indirectement pour qu'ils sentent que bah ils sont pas tout seuls. Après forcément on devait être une centaine avec tous les gens qui sont autour du club, président et autres, par rapport à 3500 c'est pas la même.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez vécu le premier match à huis clos ?
Alors le premier match à huis clos, c'était le premier match de Coupe d'Europe qu'on a joué. C'était à Istanbul. Et ben, on aurait cru que c'était un match amical. Et il était bizarre pour deux choses différentes. Un, parce que c'était le premier match à huis clos. Et deux, c'était le premier match qu'on gagnait en Coupe d'Europe. Et on l'a fait à huis clos. Et du coup, même les joueurs, à la fin du match, je leur disais « Mais oh !» Je les secouais en leur disant « Mais souris, on a gagné !» Et parce que pour moi, c'était la première victoire de la JL en Coupe d'Europe. Pour eux, c'était une victoire normale. Or que ce n'est pas normal de gagner le premier match de l'histoire de la JL en Coupe d'Europe. C'est extraordinaire. Et on essayait de les pousser dans le vestiaire à faire un peu la fête. Et les joueurs, ils étaient plutôt sobres. Après, le huis clos, je pense que ça a aidé à avoir un peu de sobriété. Il y aurait eu du monde. Je pense que si on avait gagné avec du monde, ils auraient été beaucoup plus enthousiastes.
Et qu'est-ce qui vous manque le plus ?
Bah pour moi, le public. Hein. Le public, parce que pour moi, le public à Bourg, c'est un très bon public qui connaît le basket. Ils auraient poussé comme ce soir, ils auraient poussé énormément et on aurait pu gagner. Hein. Sincèrement, avec le public d'Equinox, un match comme ce soir, on le gagne.
C'était Arafat Gorab, speaker à la JL Bourg. En studio avec nous, Julien Desbottes, le président de la JL Bourg. Bonjour.
Bonsoir, André.
Julien Desbottes, vous l'avez dit, jouer avec 15 personnes dans la salle est un contresens total et je n'y vois aucune âme et aucun point positif. On vient de l'entendre, un match sans son public, ça a quelles conséquences pour un club ?
Bah ça a de multiples conséquences. La première, c'est que en fait l'activité qui nous anime et qui nous plaît, c'est en l'occurrence le sport, le basket, mais c'est de partager avec les autres. Et effectivement, avec cette situation-là, on se rend compte à quel point c'est difficile de continuer d'évoluer dans des conditions de calme absolu. Ou alors, ça ressemble effectivement, comme je l'ai entendu dans votre reportage, à un match amical. En pire, parce que il y a encore moins de d'âme, j'allais dire, parce que quand on joue un match amical, on sait bien qu'il y a un enjeu tout relatif. Alors que là, c'est dans le cadre de la compétition, donc c'est vraiment inédit, évidemment, très violent, et surtout dans la durée, c'est c'est extrêmement frustrant, comme le disait Arafat. Et puis, évidemment, il y a l'aspect économique, par ailleurs, et évidemment, ça met en difficulté nos modèles aux différents clubs que nous sommes, et que celui que je représente en particulier n'est pas une exception. Et donc, évidemment, vis-à-vis de nos abonnés, de nos partenaires, notre public en général, ça faisait plusieurs années qu'on avait 98% de taux de remplissage à Equinox. Cette année, on accède à la Coupe d'Europe, et on a pu jusqu'alors jouer simplement deux matchs avec du public, un en Jeep Elite, l'autre européen. Et ça, c'est vrai que c'est assez violent pour nous.
Et justement, plus de partenaires et de public à Equinox, ça a quelles conséquences sur les finances du club? Il y a les droits télé, mais quelle part représente le public et les partenaires?
Mis bout à bout, partenaires et public représentent plus de 80% de nos recettes globales. Donc dans le basket, on a très peu de droits télé. Cette année, on n'en a même carrément pas parce que le choix a été fait de passer sur des chaînes gratuites. Et c'est très bien d'ailleurs, sur la chaîne L'Équipe en particulier. Mais c'est vrai que heureusement qu'on a pour le moment un socle de partenaires qui jouent le jeu, nous accompagnent et à honorer tout ou partie de sa facture pour l'année. On a nos abonnés aussi qui ont payé d'avance leur abonnement. Et donc ça nous permet. Et puis on a les aides d'État, évidemment, qui sont quand même relativement nombreuses. Il ne faut pas l'oublier. Donc on a droit au chômage partiel. On a des exonérations de charges sociales aussi. Nous, le chômage partiel, on a assez peu recours ou pas du tout parce qu'on joue en Europe toutes les semaines. Mais les autres clubs qui sont non européens, eux, bénéficient pleinement de ce dispositif. Il y a des exonérations de charges sociales, il y a un fonds de solidarité, il y a une aide à la billetterie. Donc, mis bout à bout, on a quand même énormément d'aides d'État qui viennent nous aider, comme dans la restauration, par exemple, des secteurs dans lesquels les fermetures sont rendues obligatoires par les conditions sanitaires. Donc, aujourd'hui, nous, économiquement, avec l'ensemble des circonstances dont je viens de parler, on résiste, j'allais dire, aussi bien que possible. On n'est pas inquiet pour l'avenir immédiat de notre club. En revanche, la perspective de la fin de saison, de savoir si on va pouvoir recevoir du monde, et puis de l'année prochaine aussi également, celle-là, elle nous interpelle grandement.
Comment gardez-vous le lien avec les supporters de la JL Bourg?
Alors, on garde quand même le lien par les diffusions télé et internet. Donc, tous nos matchs sont accessibles sous une forme ou sous une autre. Donc, ça, c'est quand même la base. Ensuite, on a un lien par les réseaux sociaux. Donc, il y a effectivement, là, dans les circonstances telles qu'elles sont, que vous connaissez aussi bien que moi, les réseaux sociaux sont quand même un vecteur idéal pour communiquer massivement et globalement à l'échelle de notre club. Donc, ça, c'est vrai que c'est un atout formidable de ces réseaux qui n'existaient pas il y a quelques années ou qui étaient beaucoup moins utilisés. On a envoyé aussi des signaux forts vis-à-vis de nos abonnés, à savoir qu'on a accepté de leur rembourser pour chaque foyer justement les chaînes à péage, c'est-à-dire les chaînes payantes pour voir la Coupe d'Europe. En l'occurrence, la Coupe d'Europe est diffusée sur RMC Sport. Et donc, au titre des mois de décembre et en janvier, on a renouvelé l'opération. Tous ceux qui nous présentent leur abonnement par foyer peuvent se faire rembourser ou justement choisir de s'abonner pour voir nos matchs. Donc, on essaye de créer du lien. Ça, c'est le côté supporter. Et puis, vis-à-vis de nos partenaires aussi, on organise des coffee time à 13h30 où on échange directement avec des petits groupes de 5, 7, 8 partenaires pour leur faire connaître la vie du club et l'actualité de ce club. On a des rencontres business aussi. Vous savez qu'on a un club affaires très développé, donc on a des rencontres entre les partenaires pour développer leur activité économique. Il y a 200 rendez-vous qui ont été pris dans le cadre de ce réseau, donc les personnes ont vraiment joué le jeu, sachant qu'il y a des demandes des rendez-vous et des acceptations de rendez-vous. Donc ce sont des rendez-vous qui se sont tenus et des rendez-vous qui sont faits en concertation entre une offre et une demande, si vous voulez. Donc ça nous oblige à recomposer nos modèles, à s'appuyer sur les outils moderne pour pouvoir faire que notre club continue d'avoir une vie et puis reste, comme vous le disiez, en lien avec tout son environnement.
Au niveau sportif, est-ce que c'est une chance d'être en Eurocup? Mais après, il y a le côté financier aussi à prendre en compte.
Oui, c'est vrai que pour moi, directement, en qualité de président, c'était un énorme dilemme, effectivement. Je ne me voyais pas refuser d'être européen alors qu'on avait gagné ça sur le terrain l'année dernière en terminant 5e de France. C'est une performance évidemment complètement inédite pour notre club. On a terminé 5e, alors certes d'une saison pas complètement achevée, mais cette place était quand même bien acquise, on va dire. Donc on ne pouvait pas refuser d'accéder à l'Europe. Et au final, je ne regrette pas du tout. D'abord parce que notre équipe performe et donc a accédé au second tour, ce qu'on appelle le top 16. Donc elle fait partie des 16 meilleures équipes européennes de cette compétition. Donc c'est quand même révélateur. Il faut voir que les marches sont très très hautes. Souvent quand vous changez de division dans le sport français, déjà vous vous rendez compte qu'en fait les clubs sont beaucoup plus structurés, les joueurs sont de meilleur niveau, etc. Et là on touche au niveau international. On a joué Bologne là, dans le cadre de votre reportage. Bon, il y a deux joueurs qui sont des stars mondialement connus dans le monde du basket et qui étaient sur le parquet d'Equinox. Donc on ne peut pas priver nos joueurs et notre staff et notre entraîneur, pour lesquels c'est aussi une sorte de consécration sportive du fruit de plusieurs années de travail. On ne pouvait pas les priver de cette Coupe d'Europe. Et donc effectivement, il y a des coûts à engager. Mais globalement, je pense que jouer des matchs, même à huis clos, c'est le bon facteur et le bon vecteur pour continuer à avoir du lien avec notre public, même à distance. Le pire, c'est vraiment de ne pas jouer, parce que la passion, elle s'étiole, parce que les gens, ils se détournent un petit peu de ces activités-là. Ils découvrent d'autres activités aussi dans le cadre des confinements successifs. Et nous, du coup, pour garder ce lien, il faut jouer impérativement. Et avec la vitrine européenne, ce que ça représente, et à partir du moment où on est compétitif, ce qui est notre cas, et on a su le montrer, avec des performances sportives de très haut niveau, du coup, on est dans le vrai, je pense, en jouant cette compétition, même si au plan économique, il faut faire ce sacrifice. De toute façon, vous savez, le rôle de président, tous les jours, et bien avant le Covid, c'est toujours la raison ou la passion. Et donc, moi, ma voix, elle doit se tracer entre ces deux fossés-là. À droite, j'ai le fossé de la raison, et à gauche, j'ai le fossé de la passion, et j'essaye de ne tomber ni dans l'un ni dans l'autre, parce que si je suis trop raisonnable, on manque d'ambition sportive. Si je suis trop passionné, on prend des risques à moyen terme pour le club. Donc là, on est typiquement dans le genre de décisions qui sont contrastées, mais je n'ai aucun regret, bien au contraire, à avoir participé, et c'est pas fini, à cette compétition européenne.
Pour se rendre compte, ça représente quoi comme perte à chaque match, un match à huis clos?
Alors, bon, il faut être extrêmement prudent sur les calculs qui sont faits par les uns et les autres, parce que ça dépend des hypothèses que l'on retient, comme dans n'importe quel calcul. Si on part de l'hypothèse que, évidemment, on perd la billetterie liée au fait que les gens ne sont pas là, ceux qui devaient acheter leur place au match le match. Si on considère qu'il faudra rembourser nos abonnés, parce qu'ils ont payé leur abonnement d'avance et ils n'ont pas eu le match. Si on considère qu'il faut rembourser nos partenaires aussi, dans ce cas-là, malgré les économies qu'on réalise, c'est-à-dire on n'a pas d'organisation de réceptif, on n'a pas frais de sécurité, on n'a pas le coût des animations à la mi-temps ou autre, auquel vous faisiez référence, on perd 170 000 euros par match. 170 000 euros par match. Donc évidemment, une fois qu'on annonce ce chiffre, si vous voulez, tout le monde est complètement tétanisé. Heureusement, quand on continue à jouer, en définitive, on a des partenaires et des abonnés qui continuent de nous suivre et qui, du coup, comme je vous le disais, contribuent financièrement, bien qu'ils ne soient pas présents physiquement, parce que ce n'est pas de notre responsabilité, ce n'est pas de notre faute, et ils ont envie que le club perdure et que le basket perdure, surtout à ce niveau-là. Et donc, ce faisant, heureusement, ça vient limiter sensiblement l'impact de ces matchs à huis clos. Et puis, on a l'ensemble des aides d'État auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure.
Julien Desbottes, il y a une semaine, la Ligue nationale de basket a pris des décisions pour ses championnats de première et deuxième division. Pour la JP Elite, à laquelle participe la JL Bourg, jusqu'au 15 février, chaque équipe participera à deux matchs de championnat, dont un obligatoirement à domicile, à huis clos. Et la priorité est donnée aux matchs reportés depuis le début du championnat. Qu'est-ce que ça change, ce nouveau calendrier en JP Elite pour la JL Bourg?
Ça change, que ça nous donne la perspective déjà de jouer en JP Elite et donc justement d'être présent sur les ondes, les médias, etc. Donc, et sur les antennes. Et donc ça, c'est très important. Et puis ça nous rapproche de l'objectif final qui est d'essayer de jouer les 34 matchs avant le 15 ou 30 juin. On ne sait pas encore quand est-ce que finira exactement la saison. En basket, on a une chance, c'est qu'on peut jouer extrêmement régulièrement. On peut jouer tous les 3-4 jours en moyenne, ce qui n'est pas vrai dans le rugby, par exemple. Et donc le pari qui a été fait au mois de juin dernier, quand ensemble les présidents on a décidé de ne pas jouer tant qu'on était à huis clos, c'était le pari de dire on pourra sur 3-4 mois faire 24-25 matchs. Et du coup, on se rapproche de cette échéance, sauf qu'à un moment, je pense qu'il va falloir qu'on change de fusil d'épaule, parce que quand on a pris cette décision au mois de juin de l'année dernière, très franchement, on n'imaginait pas en être toujours là au mois de février de l'année suivante. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que notre meilleur moyen de nous défendre, c'est finalement, compte tenu du fait qu'on a tout essayé pour ne pas jouer à huis clos, qui est une preuve de respect aussi de notre public, évidemment, et de nos partenaires, maintenant il faut qu'on l'admette et qu'on s'y résolve à dire tant pis pour nous, on va jouer à huis clos, et puis dès lors qu'il pourra y avoir du monde, pour pouvoir finir la saison, eh bien dans ce cas-là, on accédera à avoir peut-être 15-20% de notre public avec des distanciations sociales, etc. C'est vraiment l'objectif, c'est de se dire qu'au printemps, si ce n'est remplir Equinox, au moins on pourra avoir une partie de notre public.
Donc c'est ensuite au club de faire des propositions après le 15 février, c'est ce que demande donc la Ligue nationale de basket. Donc même s'il est difficile de se projeter, Julien Desbottes, vous aimeriez quoi ?
Moi, très clairement, je pense qu'il faut qu'on cible le fait de jouer les 34 matchs de la saison. Parce qu'une nouvelle fois, je vous le répète, c'est le meilleur moyen pour moi d'être présent, de continuer à exister, de donner du plaisir aussi. Parce que même si les gens ne sont pas physiquement sur place, on reçoit énormément de messages. Il y a beaucoup d'activités sur nos réseaux sociaux. Donc notre public reste là, il reste fidèle. Donc à partir du moment où on s'est donné toutes les chances d'essayer de jouer devant du public, que les contraintes sanitaires ne nous permettent toujours pas de le faire, il faut qu'on se dise, par exemple, à partir du 1er mars, coûte que coûte, on jouera pour faire les 34 matchs jusqu'à mi-juin ou fin juin. C'est ça, c'est la position que je défends. D'autant qu'on a été quand même, il faut pas le cacher, et je pense que c'est un vrai problème de communication des clubs. On a été très aidés par les aides d'État, comme les restaurants, par exemple, et d'autres activités. Et donc, à un moment, vraiment, ces aides sont à proportion des difficultés qui sont les nôtres. Donc je pense qu'on se doit maintenant de changer notre fusil d'épaule, de revoir notre position et d'accepter de jouer à huis clos. Et puis dès lors qu'on pourra avoir 15-20% de nos salles, espérons mai, juin, avril, pourquoi pas, eh bien faire vite revenir nos abonnés et nos partenaires en priorité pour qu'ils puissent croquer dans cette fin de saison et mettre aussi derrière eux toute cette période de morosité. Parce que si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup des effets psychologiques aussi de ces confinements. Et quand nous, on peut proposer de divertir, on se dit non, on se protège dans notre petite coquille d'escargot parce qu'on a les aides, etc. Moi, je pense qu'il faut casser cette coquille, et on a aussi un rôle social et sociétal vis-à-vis de la population et de nos partenaires et de nos abonnés en particulier, notre public, des collectivités locales aussi, à tous les niveaux, ville, agglo, département et même la région Rhône-Alpes qui nous accompagne. Et donc à ce titre, il faut proposer du divertissement, et on ne peut pas passer en boucle tous les ans au mois de mars et avril les vieux souvenirs d'il y a 5, 10 ou 15 ans quand l'équipe de France a été championne du monde au Stade de France en 98. C'est bon, on l'a passé en boucle, maintenant à nous de produire du jeu et à nous de faire l'effort en tant que club par rapport à ce qu'on représente aussi, au-delà de la simple compétition.
Julien Desbottes, merci.
Merci à vous.
Vous êtes le président de la JL Bourg.
Vendredi dernier, après une journée de pause bien méritée, les joueurs de la JL ont repris l'entraînement à Equinox. Ils affrontent ce mercredi 27 janvier les Slovènes pour l'Eurocup. Un match à l'extérieur cette fois. Hugo Benitez, un des meneurs de l'équipe, a tout juste 20 ans. Il a été formé à la JL et vit sa première saison en tant que professionnel. Mercredi dernier, vous avez joué contre Bologne, une grosse équipe. Vous avez été meneur la moitié du match au moins. Ça faisait quoi de vivre ce moment ?
C'était vraiment une bonne expérience pour moi. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc jouer contre Milos Teodosic, c'est vraiment incroyable. Je ne pensais pas que ça allait... Je savais même pas que ça allait m'arriver, et surtout m'arriver si tôt. Et oui, en plus, vu qu'on avait des blessés, il y a eu beaucoup de temps de jeu pour nous les extérieurs. J'ai joué 30 minutes contre Teodosic et Bologne, donc c'était vraiment une expérience incroyable. Et en plus, on a réussi à tenir au score malgré notre effectif avec beaucoup de blessés. Donc c'est vraiment une bonne chose. On a montré aussi que même avec cette équipe-là, avec beaucoup d'absents, on pouvait pas forcément rivaliser, mais au moins tenir tête à une équipe comme Bologne.
Ça fait quoi d'être en Eurocup ?
C'est vraiment une bonne expérience. En plus, c'est ma première saison en tant que professionnel. Et de vivre l'Eurocup, c'est vraiment bon pour moi. Ça me permet de progresser encore plus vite. Et de jouer contre des joueurs avec beaucoup d'expérience. On voit qu'il y a une différence quand même entre la JP Elite et l'Eurocup, ce qui est normal. Donc, franchement, ça me permet de beaucoup plus progresser. En plus, on a de la chance cette année avec le Covid, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont reportés en JP Elite et il y a des équipes qui ne jouent pas beaucoup. Et nous, avec l'Eurocup, on a un championnat régulier, on a au moins un match par semaine, donc c'est vraiment bon pour nous.
Et donc là, vous vivez première Eurocup, première pandémie mondiale. Qu'est-ce que ça vous fait ? Vous n'êtes pas trop déçu ?
Ouais, forcément, quand on voit qu'on joue contre des équipes comme ça et que la salle est vide, on est forcément déçu, parce que même des fois, quand on joue des matchs, on a l'impression presque qu'on joue des matchs amicaux, même si à chaque fois, ils sont télévisés. Et c'est après le match qu'on reçoit plein de messages de gens qui nous suivent, donc ça nous fait plaisir, mais c'est sûr que on est un peu dégoûté de voir les salles vides, et ça nous manque aussi, parce qu'il y a... Après, quand on joue contre Teodosic, on n'a pas forcément besoin de public pour se motiver et tout ça, mais il y a des matchs où on a forcément besoin du public pour nous redonner un coup de boost à certains moments, et il n'est pas là, donc c'est un manque pour nous. Mais bon, après aussi, quand on joue à l'extérieur, par exemple en Eurocup, on a joué au Partizan salle vide, on a réussi à gagner là-bas. Mais bon, moi j'aurais préféré presque qu'il y ait le public pour vivre une atmosphère incroyable.
Donc là, vous venez d'avoir 20 ans, vous avez été meneur contre une des meilleures équipes d'Europe. Ça fait quoi d'être le plus jeune de l'équipe et de devoir mener, en fait ?
Bah, je vais pas dire que c'est une grosse responsabilité, parce que c'est ce que je veux faire plus tard aussi. Donc plus tôt ça arrive, et plus je suis content, on va dire. Mais après, quand on rentre sur le terrain ou même à l'entraînement, la journée, moi, je pense pas à mon âge. Hein. Pour moi, on est tous tous au même niveau. Forcément, après, il y a la hiérarchie dans l'équipe, mais ça, c'est pas forcément par rapport à l'âge. Mais après, quand moi, je suis sur le terrain, surtout en tant que meneur, je dois contrôler le jeu, parler à mes coéquipiers. Et ça, si je pense à l'âge, c'est pas bon. Donc, je pense pas à mon âge. Et je joue comme si je jouais avec des personnes, avec mes potes ou avec des personnes qui ont mon âge.
Votre quotidien, ça ressemble à quoi entre deux grosses compétitions ? Comment vous faites ? Comment ça se passe ?
Mon quotidien, c'est basket tout le temps. Je me lève, je vais à la salle, je rentre chez moi, je mange, je me repose un peu, je retourne à la salle. Et puis bon, après, quand on a des jours de match, c'est un peu différent. Mais ouais, voilà, c'est basket tout le temps, on ne pense pas à autre chose. On a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Là, on a presque une semaine pour préparer le match à Ljubljana, donc c'est une bonne chose, on va pouvoir bien s'entraîner. Mais des fois, entre tous les avions, les déplacements, les hôtels, tout ça, on n'a pas le temps de réfléchir que déjà il y a un nouveau match. Donc c'est une bonne chose aussi, parce qu'au moins on a un bon rythme et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Quoi.
Et vous faites comment pour tenir moralement ? Vous avez des astuces ?
Bah, des fois, c'est sûr que des fois on est un peu fatigué mentalement, on va dire. Mais après, quand on arrive à la fin de la journée, on réfléchit un peu à tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid, tout ça, toutes les personnes qui ne peuvent pas travailler, des personnes qui vont perdre leur métier. Nous, on se dit qu'on a beaucoup de chance de déjà pouvoir continuer à, déjà d'être basketteur professionnel et de faire quelque chose qu'on aime et de pouvoir continuer à s'entraîner, à faire des matchs. Et au final, notre vie aussi est très affectée par le Covid, mais largement moins que certaines autres personnes. Donc on se dit qu'on a beaucoup de chance et après ça va mieux.
Est-ce que vous voyez un peu vos proches, votre famille quand même ?
Moi j'ai de la chance, j'ai mon frère qui est au centre de formation aussi, donc je le vois presque tous les jours. Et puis après pour mes parents et mon autre grand frère, on essaie de se voir quand j'ai un peu de vacances à Noël par exemple, ou alors ils essayent, entre les confinements tout ça, de venir nous voir, mais c'est vrai que c'est compliqué, mais après on s'appelle presque tous les jours, donc ça va.
Et comment vous le sentez cette suite de saison là ?
Pour l'Eurocup, ça va être compliqué, mais on sait qu'on a deux matchs contre Ljubljana qui arrivent, et là c'est notre dernière chance, et on va forcément tout donner. On espère récupérer tous nos blessés, mais bon, on verra comment ça se passe. Et après pour la JP Elite, on est pas mal, on a que deux défaites, mais après ça dépend pas que nous, ça dépend aussi du fait de jouer des matchs ou pas. Donc on espère pouvoir finir le championnat, mais on verra comment ça se passe. Après c'est vis-à-vis de notre équipe, on reste concentré, on prend les matchs les uns après les autres, et notre objectif c'est de gagner tous nos matchs, tous les matchs qui nous restent. Donc on continue à s'entraîner, et si on nous dit vous jouez ici dans deux jours, on ira jouer là-bas dans deux jours, et on fait ce qu'on nous dit de faire, on essaye de rester concentré et d'être dans les meilleures conditions pour gagner un match.
Maxime Courby, lui, est à la JL depuis 5 saisons maintenant au poste d'ailier. Il a connu la remontée du club en Pro A, aujourd'hui la JP Elite. Vous vivez la montée en Eurocup, ça fait quoi de voir le club grandir comme ça ?
Moi, ce que ça fait, c'est surtout une fierté, parce que quand moi je suis arrivé, il venait de descendre en Pro B, donc il y a eu du chemin parcouru. Et c'est une ascension vraiment qui s'est faite progressivement et dans la logique de l'ascension du club aussi, donc c'est... C'est une suite logique, mais on a travaillé dur pour en arriver là.
Là, vous vivez malheureusement cette saison avec une pandémie, alors que vous êtes en Eurocup, ça fait quoi ?
On est forcément un peu déçus, ça entache un peu cette première saison en Coupe d'Europe, parce qu'on voulait vivre des émotions avec les supporters, quand ça soit à domicile et à l'extérieur aussi, on aurait voulu vivre des choses vraiment uniques en Europe. En plus, on avait un groupe vraiment... En première phase, avec le Partizan Belgrade, par exemple, avec des ambiances de folie normalement là-bas, à huis clos, c'est vrai que c'est autre chose. Mais on est quand même content et fier de notre parcours pour le moment. C'est mitigé comme première saison européenne, parce qu'entre le plaisir de la jouer et le regret d'être à huis clos, mais bon, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement.
Est-ce que vous croyez qu'avec du public, le public d'Equinox, vous auriez pu aller à bout de Bologne ?
Pourquoi pas, sûrement. Après, si on avait été au complet aussi, ça nous aurait aidé. Après, faut se dire que il y a des matchs qu'on aurait aussi peut-être perdu à l'extérieur, comme on parlait du Partizan juste avant. Le Partizan, on gagne là-bas. Est-ce que eux, avec du public, ils auraient gagné? Donc, ça pourrait rabattre beaucoup de cartes, mais il faut pas trop calculer ce qui aurait dû se passer ou. C'est comme ça, on vit avec et pour l'instant, c'est plutôt maintenant l'inverse. Quand il y aura du monde, ça va peut-être nous faire bizarre maintenant. On prend l'habitude de jouer à huis clos et c'est une mauvaise habitude parce que nous, on joue pour partager des émotions, pour partager des choses avec les gens. Et là, c'est vrai que c'est à regret de jouer comme ça, mais c'est voilà.
Là, le rythme est plus fort que les autres saisons, vous avez deux compétitions à gérer. Comment vous le vivez, vous, personnellement ?
Il y a la répétition des matchs, mais aussi les longs déplacements, parce qu'on a eu vraiment Kazan, par exemple, c'était un enfer pour aller là-bas. Donc on est beaucoup dans les transports, en plus il y a des vols, beaucoup de vols qui sont annulés, donc on fait des destinations improbables pour aller à des endroits lointains. Donc c'est vrai que c'est vraiment une saison particulière, et c'est comme ça, après on s'adapte, on est obligé de s'adapter, on a un groupe qui vit bien, qui partage des bons moments ensemble, et c'est vrai que tout est adapté. Il y a des entraînements qui devaient durer 1h45 dans les années précédentes. On les fait à 1h15 maintenant d'entraînement. Donc voilà. Après, on voit aussi qu'on a beaucoup de problèmes au niveau physique. Il y a certains joueurs qui sont blessés plusieurs fois, même dans la saison. Donc c'est des choses qui arrivent quand on a beaucoup de matchs. Et heureusement qu'on a une profondeur d'effectifs suffisante pour enchaîner tous ces matchs.
Il y a eu ce match contre Bologne. Comment ça se passe juste après le match ? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, en fait ?
Bon, direct après le match, on a eu le test PCR, le fameux test PCR, parce qu'on est, deux, trois fois par semaine au test PCR. Et après, on a eu une journée de repos, parce que là, on rejoue que mercredi prochain, donc on a une semaine pour préparer le nouveau match, donc on peut se permettre d'avoir un jour de repos. Si on avait joué ce week-end, parce que normalement on devait jouer Monaco, donc on n'aurait pas eu de jour de repos. Donc là, on a eu un jour de repos complet, on a repris ce matin avec de la préparation physique, avec le préparateur physique pendant 1h15, et pas mal de shoots, et ce soir, on commence à mettre en place ce qu'on va mettre contre Ljubljana mercredi, donc on commence à regarder tactiquement ce qu'on va faire sur le terrain. À partir de demain, on va faire de la vidéo aussi, pas mal de vidéos pour les scouter, voir comment ils jouent en attaque, en défense. Donc voilà, après c'est le rythme habituel. Mais, le seul truc qui nous a changé, c'est d'avoir un jour de repos. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de jour de repos, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une semaine complète pour travailler sur un match. Donc sachant qu'en plus c'est une grosse échéance, Ljubljana, c'est un. Si on veut encore croire en nos chances de quart de finale, il faut absolument gagner là-bas, donc c'est une échéance assez importante.
Oui, donc voilà, vous ne voyez pas trop vos proches, là, ça faisait longtemps que vous ne les aviez pas vus.
Oui, c'est, bah, après, cette saison, on le savait, hein, quand on est inscrit dans une compétition européenne, on savait qu'il y allait y avoir des semaines où on serait très peu sur Bourg-en-Bresse, donc très peu avec la famille. Mais c'est la loi du jeu. Hein. Après, les familles le savent. Il y a des semaines où on est totalement ici et des semaines où on est vraiment absent. Donc c'est vrai que là, ça fait du bien de passer du temps avec eux. Et c'est ressourçant et c'est reposant aussi.
Et donc, comment vous sentez la suite de la saison là ?
Bah, déjà, on espère récupérer nos blessés et être au complet. Et après, on va mettre toutes nos forces dans la bataille pour rattraper... les deux du groupe qui sont devant nous là, pour essayer de se qualifier pour les quarts de finale. Il faudrait faire au moins un minimum un 3 sur 4 là, pour se qualifier sur les 4 prochains matchs de Coupe d'Europe. Et après, continuer sur notre lancée en championnat. On a fait des très bons matchs depuis le début de saison. Et là, le championnat, on espère, va reprendre avec une fréquence régulière. Et on espère enchaîner des belles performances pour être dans le top 4.
Les joueurs sont encadrés par leur coach, Savo Vuzevic. Il nous explique son travail avec eux en pleine saison de basket entre la JP Elite et l'Eurocup.
En général, il y a un vrai entraînement collectif, c'est une fois par jour, soit après-midi, soit matin. Quand on s'entraîne après-midi, des fois matin, on a un travail soit musculation ou un travail physique avec préparateur physique ou un peu de temps aussi pour un travail individuel avec les assistants aussi. On a deux compétitions, on a beaucoup de matchs, on ne peut pas trop regarder en arrière, il faut tirer les conséquences, des leçons s'il faut, il y a toujours, on gagne, on perd, il y a des leçons à retirer. Et on travaille en fonction de ça. Il faut savoir c'est quoi notre objectif, il faut savoir c'est quoi notre capacité sur l'année, c'est quoi notre capacité de moment, et voilà, de se comporter par rapport à ça. Et c'est un travail dur avec des problèmes au quotidien, avec les barrières au quotidien, avec les équipes qui nous attendent, on ne sait pas dans quel état ils seront aussi. Donc il faut s'adapter vite et il faut savoir que nous, c'est notre première année dans cette compétition. Beaucoup de joueurs n'ont jamais, majorité, ils n'ont jamais joué à ce niveau et surtout joué 2 matchs par semaine. Il y a des équipes qui jouent un basket supérieur, peut-être on ne le voit pas au niveau physique, mais au niveau de basket pur, de subtilité de basket. Et donc tout ça, c'est un apprentissage. Donc voilà, on essaie de répondre le mieux possible dans un niveau qui est peut-être un peu trop fort pour nous la première année, mais tout ce qu'on a fait, moi je pense, on se débrouille pas mal.
Autre personne essentielle dans le staff de la JL, le kiné. Avant et après les matchs et leur entraînement, il suit de près les joueurs.
Je m'appelle Zlatan Hadžismailović. Donc je suis tout le temps ici, 1 heure avant les entraînements. Les joueurs qui sont blessés, je les vois avant les entraînements. Les joueurs qui ont besoin de soins spécifiques, des tapes, des bandages, je les vois aussi pour les TP. Et puis après les entraînements, c'est selon les demandes et surtout s'il y a des joueurs qui sont blessés, qu'il faut s'occuper spécifiquement.
Donc là, cette année, il y a 2 compétitions, donc ça fait beaucoup de matchs, et il y a eu 3 blessés. Donc comment ça se passe au niveau musculaire, tout ça? Est-ce que c'est un peu compliqué avec les joueurs?
Cette année, personnellement, je trouve qu'on n'a pas tellement eu de blessures musculaires. On a surtout eu des blessures traumatiques, donc qu'on ne peut pas éviter. Donc je prends le cas d'Alen Omic, donc il retombe sur le sol avec son genou, avec le poids du corps, et c'est comme ça qu'il se blesse. Donc c'est des blessures qu'on ne peut pas éviter. On essaye avec Fabrice Hernand de faire le plus qu'on peut de la prévention, justement pour éviter les blessures musculaires. Et touchant du bois, pour le moment on n'a pas tellement eu de blessures musculaires en elles-mêmes.
Les Rouges et Blancs vont partir en Slovénie pour leur prochain match en Eurocup. C'est mercredi 27 janvier à 18h30. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Radio B, radio associative à Bourg-en-Bresse.